Bon réveil, si vous nous rejoignez, nous sommes le mercredi 28 septembre 2016. Voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'était un faucon avant de se muer en colombe. Shimon Peres est mort cette nuit à Tel Aviv. Il s'est éteint dans son sommeil à l'âge de 93 ans. La communauté internationale salue l'un des artisans des accords d'Oslo, conclus avec les Palestiniens en 1993, dans l'espoir de faire enfin la paix. Mais au début de sa carrière politique, Shimon Peres avait aussi contribué à faire d'Israël une puissance militaire. Retour sur sa carrière politique extrêmement longue avec Nadine Epstein.
À la une également, l'avancée de l'armée syrienne à Alep après d'intenses bombardements dont les civils sont les premières victimes.
Et puis les révélations de Mediapart sur la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. La justice aurait mis la main sur un carnet pouvant accréditer la thèse d'un financement libyen. À 7h13, dans le billet économique, Marie Viennot évoquera le projet de budget 2017, un budget non crédible.
Et nous évoquerons, Catherine, l'œuvre de Shimon Peres à 8h20 à l'occasion de la journée mondiale du droit à l'avortement. Ce sera l'actualité du féminisme à 7h40 avec la philosophe Sylvia Nagasinski. Et enfin, la question du jour, le sondage de l'Institut Montaigne consacré aux musulmans de France. Ce sondage était-il biaisé?
C'était l'homme, Shimon Peres est mort à l'âge de 93 ans cette nuit. François Hollande salue l'un des défenseurs les plus ardents de la paix. L'ancien président israélien, prix Nobel de la paix en 1994, s'est donc éteint deux semaines après avoir été victime d'une attaque cérébrale. Shimon Peres, l'un des pères fondateurs de l'État d'Israël qui a traversé sept décennies de la vie politique. Son portrait signé Danny Epstein.
La longévité politique de Shimon Peres lui vaut de nombreuses blagues, comme celle-ci par exemple. Shimon Peres, chef de l'État de 2007 à 2014, demande à son petit-fils ce qu'il aimerait faire plus tard. L'enfant répond « président d'Israël » et son grand-père de rétorquer « ah, c'est pas possible qu'il y ait deux présidents ». Peres est l'incontournable homme politique israélien dont la vie se confond avec celle de l'État. Talentueux, coriace, habile, intelligent, manœuvrier, bref, toutes les qualités requises pour nager dans les arènes politiques. Jusqu'à son dernier souffle, il aura représenté son pays. Prix Nobel de la paix, président, premier ministre, chef de ministère, leader de parti, écrivain, intellectuel, technocrate, Shimon Peres, un maître du compromis, un audacieux diplomate dont ses proches vantent le panache, la persévérance et le pragmatisme. Un homme au destin hors du commun. Depuis 1948, il travaille dans les sphères du pouvoir. Un CV politique long de 68 ans. Excepté quelques petites traversées du désert, Shimon Peres n'a cessé de siéger au gouvernement dans les fonctions les plus diverses, de chef de gouvernement, chef de diplomatie. Il était auparavant en charge du portefeuille de la défense, des finances, de l'information, des transports. Il a même été à deux reprises nommé ministre sans portefeuille. Contrairement à une très grande majorité des responsables politiques israéliens, Shimon Peres ne peut se glorifier de grade militaire, il n'a jamais revêtu l'uniforme. Mais il va se battre pour la défense de son pays avec l'arme de la diplomatie. Israël lui doit ses puissantes entreprises d'armement, ses industries aéronautiques, sa centrale nucléaire de Dimona. Ce qui lui vaut cette autre blague, les armes, il ne les a touchées que pour les vendre et les acheter. Shimon Peres se disait avant tout un combattant pour la paix. On ne fait pas la paix par la force, déclarait-il, mais grâce au compromis.
Et justement, aux États-Unis, le président Barack Obama rend hommage à un homme d'État dont l'engagement pour la sécurité et la recherche de la paix était fondé sur son inébranlable force morale et sur son indéfectible optimisme. Shimon Peres, un génie au grand cœur, salue encore Bill Clinton. Mais il ne faut pas oublier qu'il fut aussi considéré comme un faucon au sein du Parti travailliste. Sa première tâche, après la création de l'État d'Israël, a consisté à armer le pays, à acquérir par exemple l'arme nucléaire. L'analyse de Michel Barzohar, ancien député travailliste, auteur de Shimon Peres et l'histoire secrète d'Israël.
Shimon était, disons, jusqu'en 1977, il était monsieur sécurité, monsieur défense. Il était l'homme qui a le plus fait pour la défense de l'État d'Israël. Je vois même aujourd'hui que quelque part, profondément dans son cœur, il reste encore l'étincelle de l'homme de défense, de l'homme qui croit à la force d'Israël. Et même quand il est devenu un homme de paix, je dirais qu'au début, il n'avait pas compris où cela menait. Non, lui et Rabin, tous les deux.
L'ancien député travailliste israélien Michel Barzohar. L'Organisation mondiale de la santé réclame de nouveau l'ouverture de couloirs humanitaires en Syrie pour permettre l'évacuation des malades et des blessés dans les quartiers est de la ville d'Alep, la métropole du nord du pays où l'armée syrienne dit avoir pris le contrôle d'un quartier rebelle après plusieurs jours d'intenses bombardements aériens, des raids menés par Damas et par son allié Moscou. Mais les choses sur le terrain semblent plus compliquées. La correspondance de Laure Stéphan.
La situation reste confuse à Alep, dans le secteur de la vieille ville, sur la ligne de front de la métropole divisée en deux. Les forces pro-régime, c'est-à-dire l'armée et les milices étrangères qui lui sont alliées, ont lancé un assaut vers la zone rebelle. Les informations restent contradictoires. Les médias pro-régime ont annoncé que l'armée s'était saisie de tout un faubourg. Les insurgés, de leur côté, démentent une avancée majeure. L'offensive terrestre qui a commencé a été précédée par des bombardements d'une violence inédite au cours des derniers jours, menés par les aviations syriennes et russes. Le régime est déterminé à reprendre l'est d'Alep. C'est une vaste zone dans l'ancienne capitale économique et cette zone est sous contrôle de l'insurrection depuis plus de 4 ans. Des combats ont aussi lieu dans les environs de la grande ville du nord de la Syrie. Mais si une attaque terrestre est en cours, la situation militaire est très volatile. Pour preuve, il y a quelques jours, les forces pro-régime ont pris une position importante aux rebelles au nord d'Alep. Alep avant de la perdre quelques heures plus tard. Un revers, malgré l'afflux massif depuis août, de renforts de l'armée et de ses milices alliées. Pour des militantes de l'opposition joints à Alep, le scénario redouté pour l'instant est celui de la poursuite des destructions par les frappes aériennes et de la prolongation du siège des faubourgs rebelles en cours depuis près de 3 semaines.
Et cette offensive de Damas appuyée par Moscou a encore aggravé les conditions de vie des quelques 250 000 habitants qui sont totalement assiégés dans les quartiers rebelles d'Alep, privés d'eau depuis samedi, quasiment plus de médicaments ni de réserves de sang aujourd'hui. Un drame humanitaire en Syrie, un pays où les sites historiques sont aussi régulièrement détruits, soit dans des combats, soit sciemment par les djihadistes du groupe islamique. Et c'est peut-être un avertissement qui a été adressé hier à la CPI. La Cour pénale internationale a condamné à 9 ans de prison Ahmed Al-Mahdi pour la destruction de 9 mausolées de saints musulmans et pour la destruction de la porte d'une mosquée à Tombouctou, au Mali. Les faits remontent à 2012, quand Tombouctou était alors occupé par les djihadistes d'Ansardine. Des crimes de guerre pour des crimes de pierre, une première, procès suivi par Pierre Benazé.
Ahmed Al-Mahdi est le premier accusé devant la Cour pénale internationale à avoir plaidé coupable, ce qui lui a valu d'une part le procès le plus rapide de la jeune histoire de la CPI, puisqu'il s'était ouvert fin août, et d'autre part une relative indulgence des juges. Le fait qu'il ait formellement présenté ses excuses aux victimes et renié ses actes a dû jouer aussi, ainsi que le fait que ses avocats ont pu prouver qu'il avait au départ eu des réticences à effectuer les destructions. Il reste que sous sa houlette ont été détruits en 2012 la porte pluricentenaire d'une mosquée et les mausolées de 9 saints musulmans parmi les plus vénérés de Tombouctou. Ahmed Agh Al-Faqi Agh Mohamed Al-Mahdi, de son nom complet, a par ailleurs vu peser à son encontre la circonstance aggravante qu'étant originaire de la région, il ne pouvait prétendre ignorer l'importance de ces tombeaux pour les habitants de Tombouctou. Il se voit donc infliger 9 ans de prison, ce qui constituera un précédent pour les procès concernant les crimes de guerre à l'encontre du patrimoine culturel, même si certains réclament maintenant justice pour les centaines de cas de viol et d'actes de torture commis par les djihadistes. Cette condamnation fera à date, elle a été accueillie avec enthousiasme par les défenseurs du patrimoine.
7h09 sur France Culture, la suite du journal Catherine Dutu. Il avait conseillé Nicolas Sarkozy dans l'ombre, il était ensuite tombé en disgrâce, condamné pour atteinte à la vie privée après avoir enregistré l'ancien chef de l'État à son insu, Patrick Buisson.
Revient sous les feux médiatiques avec un livre explosif, La cause du peuple, apparaître demain chez Perrin. Une revanche qui tient en 500 pages, phrases assassines dévoilées hier dans l'Express et également une accusation principale. Lorsque Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur en 2006, il aurait laissé des casseurs infiltrer une manifestation contre le CPE aux Invalides à Paris. Faux, rétorque l'entourage de Nicolas Sarkozy, un clapotis dans un verre d'eau, commente encore Éric Ciotti, porte-parole de Nicolas Sarkozy dans la campagne de la primaire à droite. Mediapart apporte de nouvelles informations sur la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Les journalistes Fabrice Arfi et Karl Laske affirment aujourd'hui que la justice dispose d'un élément pouvant accréditer la thèse d'un financement libyen de cette campagne, un carnet appartenant à l'ancien ministre du pétrole du régime Kadhafi. On y trouve, selon Mediapart, le détail de 3 versements destinés au candidat Sarkozy pour un montant total d'environ 6,5 millions d'euros. Pour l'un des 2 auteurs de cette enquête, Fabrice Arfi, ce carnet a une importance capitale.
On on a pour la première fois la trace écrite, documentée, même consignée, un peu comme un vieux comptable, de versements assez précis, puisqu'on a des gens qui envoient l'argent, leur identité et des montants, et une date précise, qui est celle de la réunion au sommet entre dignitaires libyens où ont été faites ces révélations.
Votre note de 2006 parlait d'un montant de 50 millions. Là, sur ce carnet, vous ne retrouvez que 6,5 millions d'euros.
Oui, ce qui est déjà considérable. Nous ne disons pas que le carnet parle de la totalité de ce qui a été versé. Peut-être y a-t-il eu de l'argent avant. Donc maintenant, il faut remonter le fil des traces bancaires de tout cela. On avait déjà publié des informations sur des circuits bancaires transitant par le Liban, l'Allemagne, la Suisse, pour remonter tout cela. Le problème, c'est que, évidemment, ce type de dossier ne se règle pas de compte à compte ou avec un chèque endossé au nom de M. Sarkozy. Il y a un moment des espèces. C'est pour ça qu'on les utilise, les espèces. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui disent que tout cela s'est terminé en Suisse en espèces, et il y a même des témoignages pour dire qu'il y avait beaucoup d'espèces dans la campagne de 2007 de M. Sarkozy. Donc aujourd'hui, c'est à l'œuvre judiciaire de démêler cet écheveau-là.
Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart, il répondait à Ludovic Piétenu. Lui avait déjà subi une perquisition à son domicile dans le cadre de l'enquête sur les accusations de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Mais c'est pour une autre enquête que Bernard Squarcini a passé une deuxième nuit en garde à vue. L'ancien patron du renseignement intérieur français, proche de Nicolas Sarkozy, est interrogé par la police des polices dans le cadre d'une enquête pour trafic d'influence en lien avec le groupe de luxe LVMH. La garde à vue de l'ex-patron de la PJ parisienne Christian Flèche a, elle, été levée dans la soirée. Christian Flèche sera convoqué prochainement par un juge d'instruction en vue d'une possible mise en examen. À 7 mois de la présidentielle, Bercy dévoile aujourd'hui son projet de budget pour 2017, le dernier du quinquennat Hollande. Un projet de loi de finances qui s'appuie sur une hypothèse de croissance de 1,5%, trop optimiste pour le FMI et l'OCDE qui tablent plutôt sur 1,2 ou 1,3% de hausse du PIB. Ce projet de loi de finances doit par ailleurs officialiser le passage au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu prévu le 1er janvier 2018. 1 milliard de baisse d'impôts également prévue pour les classes moyennes. Et puis un paquet fiscal de 5 milliards d'euros dans le cadre du pacte de responsabilité avec un renforcement du crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE. Et puis également une baisse ciblée de l'impôt sur les sociétés pour compenser. Des économies seront demandées à la Sécu notamment. Nous reviendrons sur ce projet de budget dans quelques minutes dans le biais économique de Marie Viennot. Le temps de ce mercredi 28 septembre, Mossad au nord, ensoleillé au sud. Les températures maximales seront tout de même comprises entre 22 et 25 degrés sur la moitié nord du pays, 26 à 28 degrés dans le sud.